France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mémoire Face Weekend. Et ce matin, comment l'esprit d'aventure a changé l'histoire de l'humanité? Comment la bougeotte, l'envie d'aller voir ailleurs a modifié le cours de notre histoire et changé nos vies? Qu'est-ce qui nous a poussé à explorer le monde? Le pouvoir, la gloire, la curiosité, la soif de savoir, l'émulation, la guerre commerciale entre nations? Pour répondre à ces questions, nous recevons le géohistorien Christian Grataloup. Et comme tous les vendredis, nous retrouvons nos deux explorateurs de la connaissance, les aventuriers de la chronique inattendue, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Audicino. Bonjour Thibaut.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie, quel est le menu de votre punchline philo, ces célèbres phrases de l'histoire de la pensée?
Eh bien, on va du côté de Hegel cette semaine, le philosophe allemand, avec cette formule « Rien de plus grand, rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion ».
Bonjour Guillemette.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique Cinéma Télérama, quelle est votre ordonnance de ciné-thérapie cette semaine?
Écoutez, alors je vous expliquerai à quel point moi l'esprit d'aventure c'est moyen, mais pour moi l'esprit d'aventure c'est avant tout l'esprit de résistance.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main Vous Fasse Weekend, l'émission qui prend du recul avec votre vie quotidienne.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Allez, Rébéi.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'esprit d'aventure?
L'aventure en elle-même, c'est un mode de vie, parfois. C'est l'expression de sa personnalité, c'est une façon de regarder les choses, bien sûr. Et souvent une gesticulation musculaire ou l'exploit sportif et tout cela. L'esprit d'aventure, lui, il réconcilie normalement, ou en tout cas il essaye, l'action et la réflexion dans la même personne. Et à partir de là, évidemment que l'esprit d'aventure peut souffler sur tout le monde et il peut habiter toutes les actions de la vie humaine. Il y a de grands philosophes qui avaient l'esprit d'aventure comme Kant, de grands explorateurs qui l'avaient. Donc si on fait bien le distinguo entre l'esprit d'aventure avec ses valeurs qu'il porte, le goût de la liberté, celui de la connaissance, la capacité au risque et la capacité au non-conformisme, je crois que chacun peut s'emparer de cet esprit d'aventure. Et s'il y a une chose à dire aujourd'hui, où le monde semble fini, rétréci, c'est que l'esprit d'aventure, lui, est vraiment toujours matière à venir.
Extrait de l'émission Le Temps d'un bivouac de Daniel Fievé en 2013. Il recevait Patrice Franceschi. Bonjour Christian Grataloup.
Bonjour Ali.
Vous êtes géohistorien, professeur émérite à l'Université Paris Diderot. On vous doit l'énorme succès de l'Atlas historique mondial et toutes ses déclinaisons. Et vous publiez, chez Armin Collin, un très beau livre, richement illustré, L'esprit d'aventure, sous-titré « Exploration et curiosité de l'histoire du monde » avec de très belles cartes dessinées par Lionel Portier. Peut-être un mot sur ce qu'est la géohistoire?
Oh, c'est un mot qui a été inventé en 42 par Fernand Braudel, mais que j'ai, ainsi que beaucoup de géographes, plus que des historiens, j'ai repris pour désigner ce qui fait que les choses, quand elles se passent quelque part, ben, elles ont des effets chez les voisins. On a toujours des voisins, et on a toujours l'histoire de ces voisins, ou pour partie au moins. Mais les voisins ont aussi des voisins. Donc les choses font qu'effectivement, tout finit par se tenir. Et essayer de voir ce qui se passe quelque part et qu'il y a des effets ailleurs, mot qu'on va sans doute beaucoup prononcer, et ben voilà, c'est ça la géohistoire.
Votre livre est un cabinet de curiosité où l'on retrouve pêle-mêle Alexandre le Grand, la route des épices, l'ananas, le pouce-pouce, le chocolat ou Christophe Colomb. Le point commun, c'est l'esprit d'aventure qui a poussé les humains à sortir de leur zone de confort pour explorer le monde et in fine changer nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit l'écrivain Patrice Franceschi à propos de l'esprit d'aventure?
Alors, je connais Patrice Franceschi, qui est le président de la Société des Explorateurs, ce qui est déjà tout un programme, qui est elle-même hébergée par la Société de Géographie, que je connais bien. Et effectivement, dire, c'est parler d'institution du 19e siècle, en fait, c'est revenir à l'exploration du monde par les Européens. Donc, il y a une aventure un peu particulière, et c'est quand même celle que j'ai le plus narrée, qui est celle des Européens qui ont été loin, qui ont été outre-mer et qui en ont rapporté des choses, des objets, et que des objets incarnent. Parce qu'il y a des histoires d'humains, mais il y a aussi des histoires d'objets. L'aiguille à coudre ou la soutasse, par exemple, dans le livre.
Quatre vertus, hein, nous disait Patrice Franceschi, nécessaires à l'esprit d'aventure. L'anticonformisme, c'est-à-dire la remise en cause de l'ordre des choses, l'aptitude au risque, le besoin de liberté, le désir de connaissance. Vous êtes d'accord avec ces quatre piliers?
Oui, bien sûr, c'est défini toutes les récits de voyageurs. Aventurier et voyageur, c'est pas forcément la même chose. On va sans doute décliner les aventuriers de l'intérieur. Mais fondamentalement, là, il s'agit d'aventuriers qui vont ailleurs. Et pour l'Europe, il y a même une particularité, qui vont outre-mer. C'est une invention à partir de ce qu'il ne faut plus appeler aujourd'hui les grandes découvertes. C'est un terme colonial, inventé au XIXe siècle, mais avec des massacres, des déportations, des choses absolument horribles. Mais c'est aussi la mise en relation des humains les uns avec les autres. Par exemple, une des conséquences de l'esprit d'aventure pour les objets, mais ensuite pour la vie quotidienne de tout un chacun, c'est ce qu'on appelle l'échange colombien. C'est un terme savant au départ pour désigner tous les produits domestiqués en Amérique, des plantes essentiellement, qui vont passer dans l'Ancien Monde, et réciproquement, tous les plantes et les animaux domestiqués dans l'Ancien Monde qui vont passer en Amérique. Donc on mange du blé maintenant en Amérique, on a des chevaux, mais en Europe, on mange du maïs.
Des tomates.
Il y a des tomates, et puis il y a du manioc en Afrique, par exemple, qui est un produit typiquement américain.
Alors l'aventure, nous dit le Robert, c'est ce qui arrive d'imprévu, de surprenant, c'est l'ensemble d'événements qui concernent quelqu'un. L'aventure, c'est aussi l'ensemble d'activités, d'expériences qui comportent du risque et de l'imprévu. Quelle est votre définition de l'esprit d'aventure, Christian Grataloup ?
Alors, c'est le risque, et c'est d'aller dans le blanc de la carte, pour moi. C'est-à-dire, on sait qu'on ne sait pas. Et vouloir essayer de repousser cet ignorant ou de remplir la carte, pour ce qui concerne mes aventuriers, là, effectivement, c'est la définition de l'aventure.
Et pour vous, Christian Grataloup, ce n'est pas le rire qui est le propre de l'homme, c'est plutôt la bougeotte. Même s'il existe des animaux migrateurs, les migrations humaines ont cette particularité de se faire à l'échelle planétaire.
Ah oui, il y a des animaux, en particulier bien sûr nos cousins, les grands primates, qui rient. Donc ce n'est pas tout à fait le propre de l'homme, n'en déplaise à Rabelais. C'est effectivement le fait d'être ubiquiste, c'est-à-dire de vivre partout, dans tous les milieux, d'avoir pu s'adapter à des milieux très très froids, alors que ce n'est vraiment pas notre type de climax, comme disent les biologistes, notre milieu dans lequel on est naturellement bien. Mais c'est fondamentalement, on a été dans des lieux, sinon on n'aurait jamais peuplé l'Amérique. On est passé en pleine période glaciaire, par le détroit de Bering, et l'Amérique, de ce fait, maintenant, quand Colomb est arrivé, il y avait des cousins.
Et donc, à la base de cet esprit d'aventure humain, de bonnes jambes, un puissant cerveau, et nous sommes une espèce dotée d'une grande capacité d'adaptation dans tous les milieux. Vous le disiez, qu'il fasse très froid, très chaud, très humide, très sec, nous adaptons, ce qui favorise évidemment notre esprit d'aventure.
On construit des micro-milieux. Ouais. D'ailleurs, le vêtement qu'on porte, le bâtiment dans lequel on est, le chauffage, évidemment, le feu est absolument essentiel. Et c'est par là même que commencent les dégâts que l'on opère sur la planète. Il ne faut pas oublier non plus que le corréla de cet esprit d'aventure, c'est d'avoir brûlé des tas de forêts, d'avoir détruit les mégafaunes, comme on disait. C'est très net en Australie, par exemple. Les humains arrivent il y a 60 000 ans, et puis il y a 30 000 ans, il n'y a plus du tout. Tous les grands animaux qui existaient ont disparu, il n'en reste plus que des plus petits.
Vous écrivez une jolie chose, Christian Grataloup, dans votre livre, les humains sont devenus de perpétuels migrants, des aventuriers toujours insatisfaits par la limite de l'horizon.
Ah oui, l'horizon est une... Allez voir au-delà de l'horizon. C'est quelque chose qui taraude absolument. Quand j'étais gamin, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Raon, c'était dans Pif, et il voulait toujours aller voir là où le soleil se levait. Et pour moi, c'est ça la géographie, c'est-à-dire mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a au-delà de l'horizon, d'essayer de pouvoir de le noter, de le cartographier, d'en faire un récit.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors on dit l'esprit d'aventure, il est un peu peut-être la caractéristique de notre humanité, mais est-ce que pour autant il y a des esprits d'aventure ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des esprits d'aventure qui ne seraient un peu différents en fonction, alors peut-être des époques bien sûr, mais aussi des régions du monde, pour le dire autrement ? Est-ce que l'aventure, ça veut dire la même chose partout dans le monde ?
Alors, il y a des choses qui sont assez semblables, qui sont, par exemple, que lorsque l'on a qu'on est assuré d'une certaine religion, par exemple, de vouloir convertir. C'est pas le propre des monothéistes occidentaux, donc incluant l'islam, le christianisme et le judaïsme, mais c'est vrai des bouddhistes, par exemple. On a une diffusion très très nette, et avant de l'hindouisme, on a ces phénomènes qui sont très... Mais c'est aussi des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, pour moi, une des plus grandes aventures de l'humanité, donc des grands aventuriers, ce sont les Polynésiens. Quand on pense qu'ils ont peuplé toutes les îles du Pacifique et qu'ils ont probablement été jusqu'en Amérique, on en a même de bonnes raisons de penser, et que quand les Européens sont arrivés, ils étaient partout, ils savaient naviguer dans le Pacifique, or ils ne maîtrisaient pas ce que nous on appelle l'écriture. moi j'emploie cette expression prudente parce qu'il faisait des cartes, ce qui est quand même une forme d'écriture. Mais ces gens-là ont été sur les deux tiers de la circonférence terrestre, puisque les Austronésiens ont également peuplé Madagascar. Donc vous avez une distance qui est colossale, et avant Magellan, on n'a pas fait mieux. Qu'est-ce qui les a motivés ? En fait, on n'en sait rien. Il y a tout un récit mythologique, mais ce n'est pas forcément celui sur lequel on va s'appuyer. Mais c'était une sacrée aventure.
Bonjour professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre et vous publiez au livre de poche l'aventure de la bonne humeur, une méthode antidéprime. Avant que vous nous donniez quelques conseils pour mettre un peu d'esprit d'aventure dans notre vie routinière, dans la banalité du quotidien, comment expliquez-vous, de façon peut-être intuitive, que certains soient dotés d'un esprit d'aventure, d'un esprit aventurier, et d'autres soient beaucoup plus casaniers et soient très très prudents par rapport à l'idée d'une éventuelle aventure?
C'est peut-être lié à la bonne humeur. Vous savez, aujourd'hui, oser dire qu'on est optimiste, qu'on est de bonne humeur, qu'on a envie de faire des choses, qu'on est entreprenant, ça paraît sacrément contre l'esprit routinier du temps. Et puis, il y a quand même des études en neurobiologie qui montrent que la tendance à la recherche de sensations, la tendance à la recherche de nouveautés pourrait être déclenchée par certains facteurs, par certaines configurations cérébrales ou neurobiologiques. Il n'y a pas un gène, une molécule de l'aventure, mais il y a peut-être des choses autour du lobe frontal et de la dopamine. C'est peut-être moins romantique que tout ce que vous avez raconté avant, mais voilà, nous on reste sur... Mais il y avait une histoire extraordinaire d'un ouvrier du chemin de fer américain qui était un ouvrier parfaitement calme, parfaitement gentil, puis qui a pris un rail dans le lobe frontal. C'était pas prévu. Donc ça lui a défoncé le lobe frontal, et puis après il est devenu psychopathe, voleur, à moitié agressif. Donc, il y a peut-être quelque chose où il faut bien protéger son front, quoi. Sinon, vous risquez d'être trop aventurier.
Comment acquérir donc dans sa vie quotidienne un peu d'esprit d'aventure pour casser la routine, la banalité du quotidien? Donnez-nous quelques conseils, peut-être, professeur Michel Lejoyeux.
Oui, deux idées. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon bouquin. La première, c'est de sortir de la pensée absolutiste, c'est-à-dire du raisonnement en tout ou rien. Soit je suis un aventurier, comme vous en avez raconté, là, qui découvre un continent, une civilisation, soit je suis un casanier. La réalité, et c'est ce que je fais en consultation, c'est de trouver des petites aventures. Est-ce que aujourd'hui, j'ai été capable de faire une petite chose qui me met en danger? Moi, vous voyez, par exemple, je suis là... dans une émission de France Inter, donc je suis complètement terrorisé, je sors de ma zone de confiance, et ça va être mon aventure de la journée, et je vous en remercie beaucoup, Ali. Vous voyez, j'ai rempli mon quota d'aventure de la journée. Une autre chose, par exemple, je vais essayer de parler à quelqu'un à qui je n'ai jamais adressé la parole avant. Je vais prendre quelqu'un, éventuellement qui m'impressionne un peu, et je l'aborde. Il y en a une étude qui vient de sortir, très amusante, qui montre qu'appeler quelqu'un par son prénom, c'est des fois un peu audacieux, et c'est une petite aventure. Donc vous voyez, le psy que je suis prône un enchaînement de micro-aventures quotidiens, peut-être pour un jour devenir un grand découvreur aventurier, comme vous en avez parlé.
Merci beaucoup, professeur Michel Lejoyeux, pour votre intervention. L'aventure de la bonne humeur, une méthode antidéprime, c'est publié au livre de poche. Allez, il est déjà temps de retrouver la ciné-thérapie de la docteure, la doctoresse, comme on disait de mon temps, Guillemette Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Alors, cher Ali, j'ai soif de connaissances. Oui. Ça, vous allez pas le nier, bien. Mais alors, pour autant, on ne peut pas dire que je sois l'exploratrice du siècle. Quand je décide de faire une tarte au citron, par exemple, à la place de mon habituel fondant au chocolat, honnêtement, j'ai déjà l'impression d'être la Alexandra David-Neal de la pâtisserie. La semaine dernière, à cause d'un colis qui n'avait pas été livré à l'adresse que j'avais demandé, ouais, ma vie est super dure, je me suis rendue à Suresnes. Et en cherchant désespérément la bonne poste, mais j'étais toute excitée par mon esprit d'aventure, je me prenais pour Indiana Jones. Bon, alors voilà. Donc bon, j'en suis pas à une honte près. Donc, je vous avoue dans la foulée que ça m'agace quand je tape « film d'aventure » sur Internet. C'est toujours pareil. On me propose des films avec des ados qui partent faire la route pour ressembler à Kerouac, mais ne changent pas grand-chose, hein, à part leur propre vision du monde. des mecs qui gravissent pieds nus des montagnes juste pour la gloire, ou des héros qui se battent contre des serpents et des nazis pour dénicher le Graal. Bon, alors qu'en fait, pour battre les nazis, moi je préfère vous ordonner un film sur une aventure scientifique, justement, qui a vraiment tout changé. Imitation Game de Morten Tildum.
Que faisiez-vous pendant la guerre? Vous êtes bien attentif?
Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté.
C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques.
Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs.
Messieurs, je vous présente Alan Turing.
Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir.
Vous deviez être populaire à l'école.
On manque d'effectifs.
Eh bien, nous allons recruter du monde.
Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème.
C'est possible, moi ?
Non, moi, il m'en faut 8.
5 minutes et 34 secondes.
Vous avez dit moins de 6.
Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant.
Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie.
Avez-vous déchiffré le moindre message allemand ?
Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là !
Alors, Alan Turing, voilà un aventurier, mais qui n'a jamais quitté l'Angleterre. Et ce film passionnant, et douloureux hein, aussi, vous verrez, vous apprendra tout d'une terre inconnue, son cerveau. Et comment ce cerveau en fabriqua un autre, mécanique, qui cassa les codes de la machine Enigma utilisée par les Allemands, donc pour crypter leurs messages pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors le casting, lui, est un voyage dans ce que le cinéma britannique fait de plus beau, avec évidemment en majesté Benedict Cumberbatch, il faut avoir l'esprit d'aventure hein, pour réussir à prononcer son nom, absolument fascinant dans le rôle de ce génie homosexuel qui inventa l'ordinateur et se suicida en 1954. Alors non, sachez-le, une bonne fois, même si on a retrouvé une pomme croquée à côté de son cadavre, ce n'est pas à cause de lui que Steve Jobs a choisi une pomme comme symbole d'Apple.
Bon, vous vous égarez un petit peu, docteur Guillemette, cette chronique va être un peu trop longue là.
Oui, bah voilà, dès que je me risque au-delà de mes frontières, hein, je me fais engueuler. Alors, le deuxième film que je prescris se déroule aussi en Angleterre, mais là, on est carrément au bord de l'extinction de l'humanité. Et pourtant, dans Les Fils de l'Homme,
chef-d'œuvre
brutal d'anticipation d'Alfonso Cuarón adapté de P.D. James, nous sommes très exactement en novembre 2027.
Consternation générale aujourd'hui après l'annonce de la mort de Diego Ricardo, la plus jeune personne du monde. Le cadet de l'humanité était âgé de 18 ans, 4 mois, 20 jours, 16 heures et 8 minutes.
Le mystère suprême. Pourquoi les femmes sont-elles infécondes ? Certains accusent les expérimentations génétiques, la pollution, à ton avis. Pourquoi on ne peut plus faire d'enfants, hein ?
Quelle importance ? Dans 50 ans, il n'y aura plus personne, c'est trop tard.
Circulez ! Circulez !
Tu comprends ce qui est en jeu ?
Il faut qu'on prenne ce bateau.
Quel bateau ?
Le groupe Renouveau Planétaire nous a envoyé un bateau.
Renouveau Planétaire ?
Oui, les plus grands penseurs du monde, unis pour reconstruire l'avenir.
Alors, je ne veux pas déflorer ce film exceptionnel qui anticipe avec tant de réalisme. Juste vous dire qu'un homme, qui a cessé de militer il y a longtemps, peut se retrouver avec la mission réellement vitale de sauver l'humanité en tentant d'amener une jeune femme, mais une jeune femme miracle, jusqu'à un bateau. Dans une société en plein chaos où les migrants sont parqués comme des bêtes et où le terrorisme fait loi. Voir ce film, c'est comprendre à quel point le moindre discours au sujet des frontières est déjà une exploration d'un monde totalitaire. Et si aujourd'hui, le plus bel esprit d'aventure était l'esprit de résistance ?
Le rappel de votre ordonnance de cinéthérapie, docteur Odissino ?
Imitation Game et Les Fils de l'Homme.
La cinéthérapie de Guillemette Odissino à podcaster et à partager sur l'appli Radio France. Dans quelques instants, on continue à s'intéresser à l'esprit d'aventure. On écoute Metronomy qui interprète The Bay, une chanson sortie en 2011.
There's endless seasons that go on and on.
Métronomie interprété The Bay.
Mon petit gars.
France Inter.
Tu vas en connaître des aventures.
Grand bien vous fasse.
Le risque est le piment de l'aventure.
D'aucuns ont des aventures.
Ali Rébi.
Je suis une aventure.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse week-end, on s'intéresse à cet esprit d'aventure qui a changé l'histoire de l'humanité en compagnie de l'éminent géohistorien Christian Grataloup qui publie L'esprit d'aventure. Vous ne pouvez pas y échapper, Christian Grataloup. L'aventure qui a deux faces, hein, on le voit bien dans votre livre, L'esprit d'aventure, l'aventure qui donne lieu à des échanges fructueux, harmonieux, positifs, et l'aventure conflictuelle, guerrière, violente, qui donne lieu à de la domination, à des préjugés ou encore à du racisme. Double face de l'aventure.
Oui, parce que nous sommes à la fois aventuriers et casaniers. C'est souvent, on est à la fois très, nous sommes des animaux mobiles, on a insisté là-dessus, mais aussi des animaux territoriaux. Et un territoire, bah, on le conserve, on le garde. Il y a des sociétés où il y a des partages, mais c'est toujours conflictuel. Et puis, le plus souvent, bah, on essaye de l'agrandir et le voisinage n'est pas forcément facile. Donc, il peut se passer des choses chez les voisins qui nous impactent involontairement. Par exemple, une épidémie. Ça, c'est pas... Mais il peut se passer aussi des choses qui nous impactent volontairement de la part du voisin qui nous envahit. Ça peut être... C'est nous qui pouvons être le voisin aussi. D'autant plus que si on va... J'évoquais l'échange colombien il y a un instant, qui était globalement bénéfique, hein, d'échanger les différents acquis des néolithiques du monde, c'est également aussi l'échange des microbes, des maladies, de faire un grand bassin pandémique. Et sinon, d'ailleurs, une aventure très, très douteuse ne serait pas passée, c'est-à-dire la conquête de l'Amérique par les Européens, qui ont dominé sans trop de difficultés les Amérindiens, parce qu'ils les ont, très involontairement, mais d'abord massivement, rendus malades.
Je me posais la question, parce qu'on parlait de l'esprit d'aventure, le rêve, l'envie d'aller voir ailleurs, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même aussi, dans beaucoup en fait, d'aventures, de l'orgueil ? Et j'englobe pas mal de choses, c'est-à-dire l'orgueil d'être le premier à planter un drapeau, l'orgueil d'être le premier à aller sur une banquise éloignée, le premier à trouver un ananas, le premier de pouvoir, en fait, cette fierté au pire du pire, c'est évidemment l'orgueil d'asservir un territoire, quoi. Est-ce que l'orgueil, elle est pas quand même un peu, elle se niche pas un peu dans cet esprit d'aventure ?
Oui, oui, vous l'avez d'ailleurs évoqué dès le départ, ce qu'on appelait la course au drapeau. C'était vraiment le truc, et la concurrence pour être le premier au pôle sud, par exemple, qui fait que le second est mort. Mais le résultat, Amundsen et Scott ont fait une compétition. Cet esprit d'aventure, c'est aussi ce qui anime l'esprit sportif, et c'est quand même un succès d'année de la guerre, ce genre de pratique, ou du duel, dans bien des cas. Donc oui, c'est tout à fait... pas exactement la même chose qu'être quand même le premier à découvrir le vaccin contre la rage.
Oui, bon,
là aussi, il y a de la concurrence. Là aussi, les labos se font une petite guerre. Mais malgré tout, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Donc, il y a ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a eu, c'était lié à l'idée d'une conquête. C'est-à-dire, très, très largement, il s'agissait d'aller acquérir ce qu'on n'avait pas chez soi. Et donc d'être un conquistador. On pense aux mines d'or, mais c'est d'abord été des terres tropicales, faire pousser ce qu'on ne veut pas faire pousser chez soi. Il y avait l'aventure, c'était de savoir qu'il y avait ailleurs quelque chose. Les épices ont été un peu ce symbole-là, à commencer par la canne à sucre, d'ailleurs, enfin le sucre de canne. C'est ensuite quelque chose qui fait que, comme on ne peut pas le faire chez soi, ben, il faut aller prendre ailleurs, peu importe ce qu'il y a, et surtout se débarrasser des sociétés préexistantes, et pouvoir faire cultiver ce genre de choses. Les Européens se sont, jusqu'au XIXe siècle, intéressés qu'aux tropiques, fondamentalement. Hein,
Thibaut de Saint-Maurice ?
Oui, et quand on lève la tête, est-ce qu'aujourd'hui, les appétits qui s'aiguisent vers d'autres espaces, la Lune, d'autres planètes, Mars, est-ce que c'est une continuité pour vous de cet esprit d'aventure, ou est-ce que c'est une rupture parce qu'on sort un peu de notre condition humaine terrestre ?
Non, c'est d'ailleurs, ça a été présenté pour la conquête spatiale aux États-Unis comme le prolongement de la conquête de l'Ouest dans les années 60. Donc, on est bien dans cette idée qu'on va aller toujours plus loin. C'est Mars que certains veulent privatiser. C'est la Lune, d'ailleurs, à plus court terme, ça, on le verra. C'est une forme de folie humaine, oui.
Écoutons un extrait de l'incroyable périple de Magellan diffusé sur Arte.
Je pense qu'il y a un instinct chez l'homme pour explorer. Nous essayons toujours de savoir ce qu'il y a derrière le coin, qu'y a-t-il de l'autre côté, et le virage suivant, et ainsi de suite. C'est un instinct de faire ça.
Fernand de Magellan est le marin qui représente mieux que tout autre le héros, le grand navigateur, le grand voyageur, le grand aventurier. En fait, il est le paradigme de tous ces explorateurs qui ont commencé au XVe siècle et ont développé toute cette mission de découverte, de conquête et de connaissance tout au long du XVIe siècle.
Extrait de l'incroyable périple de Magellan, Ferdinand de Magellan, le navigateur portugais né vers 1480 et mort en 1521. Et là, on vient d'écouter le skipper britannique Robin Knox Johnston et l'historien espagnol José Manuel Núñez de La Fuente. Au fond, Christian Grataloup, que serait l'histoire de l'humanité si les humains n'étaient pas dotés d'un esprit d'aventure à la Magellan ?
On serait toujours dans l'Afrique tropicale. Voilà, fondamentalement, ce serait sans doute une toute petite humanité. Oui, le Magellan, c'était un projet rationnel. Hein, parce que c'était Magellan, il ne se rendait pas compte de la distance du Pacifique. Mais c'était l'idée qu'on contournait l'Amérique. Le sud semblait plus plausible que le nord, et c'était vrai. Et que de là, on pouvait aller jusqu'aux îles à épices. Avec l'idée que les îles à épices étaient peut-être plus à l'est que la limite du traité de Tordesillas l'avait projeté de l'autre côté par l'antiméridien de Tordesillas, l'autre côté du globe, et que donc le roi d'Espagne pouvait peut-être acquérir des îles à épices qui n'étaient pas réservées aux Portugais. Mais il fallait traverser le Pacifique pour se faire. Donc le projet de Magellan n'était pas de faire le tour du monde du tout. D'ailleurs, lui-même, comme vous l'avez dit, il est mort en 1521, donc aux Philippines, mais de revenir ensuite en retraversant le Pacifique dans l'autre sens.
Alors, votre livre débute avec Alexandre le Grand, doté d'un sacré esprit d'aventure et un gros appétit de domination. Alexandre, le roi de Macédoine, qui a conquis de nombreux territoires de l'Ancien Monde, une légende qui continue à frapper les esprits. Hein.
Alors, c'est la légende qui est extraordinaire, parce que ce que Alexandre a fait était, au fond, ce que l'historien Imr al-Dun au XIVe siècle va montrer, qu'un petit groupe périphérique peut conquérir un empire. Un petit groupe de Grecs peut conquérir l'empire perse, avec lequel ils avaient maille à partir depuis deux siècles. Et au fond, il a repris l'empire perse, de l'Égypte à la Bactriane, enfin à l'Asie centrale. Et puis s'est arrêté en Inde, exactement comme l'empire perse. Donc c'est pas en soi cette aventure qui est si extraordinaire, même si bien sûr il a été un très très grand stratège et il a utilisé très bien son armée. Mais c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'il est resté un modèle de stratège justement pour César, pour Napoléon, qui a voulu lui-même aussi aller en Égypte, hein, en souvenir. Mais il a aussi été un demi-dieu, voire un dieu complet, en Asie centrale et au-delà, dans toute l'Inde, et puis même jusqu'en Afrique noire, où sous différents avatars, celui qu'on appelait le bicornu, parce qu'on le représentait avec des cornes sur la tête, avait commis des exploits absolument extraordinaires, entre autres celui d'enfermer Gog et Magog, les cavaliers de l'Apocalypse, derrière une muraille de fer jusqu'au jugement dernier.
Qu'est-ce qui reste de cet esprit d'aventure d'Alexandre, cette légende d'Alexandre au XXIe siècle ?
Il a en tout cas largement servi à justifier tous les impérialismes. Et tous les grands impérialismes, j'ai cité César et Napoléon, mais enfin tous ceux qui...
On pourrait continuer.
On pourrait faire la liste pour être plus longue, et encore ça, c'est ceux qui ont réussi, au moins un certain temps. Mais c'est quelque chose qui est un rêve, et un rêve très machiste d'ailleurs, hein, d'être l'homme conquérant pour construire un empire. Et ça fait partie de l'idée qu'on a un territoire humain, c'était cette limite à l'aventure que j'évoquais, mais qui est très grand, simplement. Voilà, l'idée de boucler et de dominer plusieurs sociétés.
Thibault ?
Oui, et puis au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de l'uniformisation ? Enfin, de vouloir que un mode de vie, une certaine vision du monde s'étende et devienne la seule et la bonne vision ? Je pense justement à cette époque, à la manière dont les Grecs, par exemple, plus tard, vont partager le monde entre les barbares et les Grecs. Et le barbare, si je ne me trompe pas, c'est un mot qui est formé sur une forme de moquerie de la manière dont ceux qui ne parlaient pas grec parlaient, en faisant des onomatopées, des blabla, des barbares, et que c'est comme ça qu'ils sont désignés. Donc il y a quand même toujours cette histoire un peu d'ethnocentrisme qui se joue.
Oui, ça aussi, c'est une des choses les mieux partagées qui soient, l'ethnocentrisme. Ouais. Nous, vous savez, on a des récits d'anthropologues qui quittent le groupe dans lequel ils avaient vécu 2 ans, 3 ans en Amazonie, et puis dont la population, dont ils étaient devenus les amis, qu'ils avaient intégrés, pleurent. Parce qu'ils vont dans la barbarie, justement, en quittant ce groupe d'Amérindiens. Et on a ce phénomène, c'est un truc qui me frappe toujours pour tous les migrants de force, parce qu'ils fuient la guerre ou ils fuient la misère, c'est justement d'être obligé de quitter. Et il faut vraiment être très motivé pour quitter son territoire initial. Et donc, on l'oublie quand on les voit arriver. Mais c'est quelque chose qui est général. L'idée que le barbare, c'est l'autre, c'est quelque chose... Alors, il y a plus encore systématique que les Grecs antiques, qui étaient un groupe relativement restreint, c'est le monde chinois. Pour avoir même codifié les types de barbares en fonction des orientations, de l'Est, de l'Ouest, etc. Avec les barbares cuits, qui sont ceux qui sont dominés, les barbares crus, qui sont ceux qui seront dominés, c'est-à-dire nous. Hein. Donc, vous avez une vision. Mais simplement, ils ont été plus gros et plus grands. C'est pour ça que leur barbarie était plus facile, plus évidente. C'est malheureusement quelque chose dont il faut se méfier et pas oublier qu'il y a une humanité.
Christian Grataloup, un animal nous a permis de développer notre esprit d'aventure, c'est le cheval domestiqué il y a 3500 ans. Et deux inventions majeures que vous racontez dans votre livre, deux inventions majeures, le mors et l'étrier, qui ont permis au cheval de nous aider à conquérir le monde de façon guerrière ou pacifique.
Oui, sans le cheval, l'histoire aurait été très différente. C'est le maître de la distance. Hein. C'est le fait d'avoir pu domestiquer. Alors, c'était très difficile. C'est un animal qui ne se laisse pas domestiquer facilement. Il y a eu des échecs. Ça a donné les chevaux de Przewalski, qui sont des animaux réensauvagés. Finalement, lorsqu'on a bien réussi à la technique du mort, il y a 3500 ans à peu près, eh bien, oui, on a pu maîtriser le cheval. Et donc, à partir de là, alors, c'était des peuples cavaliers. Moi, j'aime bien distinguer dans l'Ancien Monde les peuples à pattes, ceux qui maîtrisent la distance, qui sont des caravaniers, dont les Mongols sont un peu le monde le plus typique, et puis les peuples à racines, qui sont les mondes paysans, les mondes qui ont un territoire restreint et qui, eux, sont fixés parce qu'il y a leurs arbres, il y a leurs vignes, et donc leurs champs, leurs rizières qu'ils ont aménagées. Donc, cette opposition est en même temps un couple, hein, puisque les uns transportent les marchandises de l'autre. Mais vous avez ce phénomène qui fait que le cheval a pu servir, dès le deuxième millénaire avant notre ère, avec le char tiré, d'abord, parce qu'on ne savait pas le monter vraiment, à être un outil de combat absolument considérable. Alors, on a domestiqué d'autres animaux pour cela, le dromadaire ou l'éléphant, mais le cheval reste vraiment, la cavalerie reste vraiment l'élément décisif. Et puis, bien sûr, il permet de faire de l'information. Par exemple, l'ancêtre de votre ancêtre qui transmet le message, qui transmet l'information, là, c'est le courrier qui va...
C'est la malle-poste.
C'est la malle-poste et qui change de cheval tous les 30 km. C'est les bottes de 7 lieues, oui. Hein, 7 lieues c'est 30 km, qui va permettre d'acheminer des nouvelles à la vitesse d'un cheval au galop.
Oh, il y a les pigeons quand même. Attends, je plaisante.
Oui, mais c'est quand même moins efficace.
Vous avez parlé du mort, un mot sur l'étrier.
Alors, l'étrier, lui, c'est autre chose. Ça va renforcer le caractère guerrier. Mmh. Parce que j'ai évoqué le char, ça reste quand même une technique limitée. L'étrier va permettre au cavalier de faire corps avec son cheval. Donc, de faire deux choses, soit de prendre la puissance de son cheval et d'aller enfoncer une lance dans le cavalier d'en face, le chevalier médiéval, soit de se tenir en se lâchant les mains et en guidant son cheval uniquement avec ses jambes et de tirer à l'arc. Ça, c'est la flèche du part, comme on dit, quand on tire en se retournant, mais en faisant semblant de fuir, mais c'est quelque chose qui va être la force essentielle des cavaliers des steppes, oui. Alors là, c'est sur l'histoire jusqu'à l'invention des processus mécaniques, disons du tir rapide avec un fusil, c'est au 19e siècle, jusque-là la cavalerie, c'est quand même la reine des batailles.
Je vous imagine Thibaut avec à cheval, avec un arc.
Bien sûr, mais vous êtes seul responsable de cette image, Ali.
Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or?
Un extrait des mystérieuses cités d'or, hein. Beaucoup de souvenirs autour de la table. Hein.
Oui, j'ai constaté qu'en fait, dans le récit, là, la petite narration, on ne dit pas que des gens partent à la découverte, hein, des cités d'or, ils partent à la conquête. Donc décidément, il y a un truc quand même. Hein.
Et oui, Christian Grataloup, le mythe de la ville d'El Dorado, cette ville au bord d'un lac immense dans le nord de l'Amazonie, ce mythe de l'El Dorado a enflammé l'esprit d'aventure, notamment au XVIe siècle.
Il s'était produit bien avant, au 6e siècle avant notre ère, un truc assez extraordinaire, c'est qu'il y avait des tas d'échanges dans l'ancien monde de la Méditerranée aux mers de Chine, et puis en peu de temps se sont institués un truc qui est la pièce de monnaie. C'est-à-dire un petit disque de métal rare, donc or-argent, qui va aussi bien en Chine qu'en Perse, qu'en Inde et en Grèce, servir à échanger. À partir de là, les métaux précieux deviennent autre chose que simplement faire des trucs brillants de l'orfèvrerie, mais deviennent le pouvoir. Et donc, les conquistadors, ceux qui cherchent à conquérir, ils ont recherché, bien sûr, des territoires où ils pouvaient faire pousser de la canne à sucre ou des épices, mais aussi là où il y avait des mines d'or inutilisées. Et il y en avait plein. En Amérique, on savait manipuler l'or et l'argent, on faisait de jolies choses, qu'ils ont tout fondu, les conquistadors ont tout fondu, mais on utilisait quand même au total assez peu les mines, parce qu'on n'avait pas ce besoin, la monnaie c'était autre chose, des plumes, des cabosses de cacao, et donc il y avait de l'argent et de l'or à foison. Ça a changé l'histoire du monde, parce que ça a permis aux Européens de devenir les grands acheteurs sur l'ensemble de l'ancien monde, et cet argent finissait en général en Chine. Mais cet or et cet argent aiguisaient des appétits, d'où des mythes souvent issus de mythologies antiques qu'on replaquait sur des récits de populations locales, d'autant plus que bien des populations locales avaient très bien compris que quand ils voyaient quelqu'un du type Aguirre débarquer chez eux, bah, ils disaient « Nous, on n'a pas d'or, mais un peu plus loin. » on a plusieurs récits qui fonctionnent ainsi, et finalement, on se retrouve au fin fond de l'Amazonie, et on rêve d'une cité d'or.
Et c'était quoi, justement, ce mythe de l'Eldorado, de ces cités d'or?
Alors, on a fini, en particulier Humboldt, à la fin du 18e, de dire non, non. Il y a un endroit très, très marécageux, quelque part entre l'Orénoque et l'Amazone, un endroit où les cours d'eau changent de côté, vont vers le nord ou vers le sud, qui est une gigantesque zone marécageuse, qui, aux saisons des pluies, se remplit. Et donc, on a imaginé que sur ces bords se reflétaient les murs plaqués d'or de la cité d'Eldorado. Mais ça n'a évidemment jamais existé.
Alors, il n'y a pas que la soif de l'or qui a suscité l'esprit d'aventure, il y a aussi les épices. Au Moyen-Âge, les épices faisaient rêver, car elles venaient de si loin qu'on les pensait produites au paradis terrestre. Les épices qui ont enflammé cet esprit d'aventure humain.
Alors, c'est vrai qu'il y a quelques produits tropicaux qui se conservaient, parce que donc, c'est plutôt des graines ou des choses réduites en poudre, qui pouvaient supporter de longs voyages et qui poussaient dans des îles lointaines, en particulier les Moluques, c'est ce que visait Magellan d'ailleurs. Et ces poudres, ben, elles traversaient l'océan Indien, elles étaient vendues au Moyen-Orient, et les Européens avec les croisades les ont connues. Ce qui fait que, par exemple, au moment de la croisade de Saint-Louis, ils faisaient leur course au marché du Caire, et les commerçants on pouvait leur dire, ben voilà, c'est très rare, donc c'est très cher, et parce que ça vient du paradis. Mais je pense que le commerçant, qu'il soit juif, arabe, musulman ou chrétien, pensait la même chose, hein, c'est la même mythologie, il pensait que les arbres du paradis, il y en a un même qui est fameux, ils poussaient et que ces graines tombaient dans les quatre fleuves du paradis, qui étaient un des vieux mythes bien ancrés, dont l'un était le Nil. On mettait des filets très en amont, les graines étaient ramassées et on pouvait les vendre à prix d'or, évidemment, ou à l'Européen qui arrivait. Donc, les Européens avaient une faim d'épices, et parmi ces épices, j'ai bien insisté sur le rôle du sucre, de la canne à sucre, qui était une épice qui venait d'Inde, qui était particulièrement rare. Donc, ils ont cherché à les faire pousser, à s'en procurer, et c'est pour ça qu'ils se sont emparés au 15e siècle de ce qu'on appelle la Macaronésie, c'est-à-dire Madère, les Açores, les Canaries, parce que là, c'était des îles à sucre. Enfin, les premières îles à sucre, elles sont là. Puis, évidemment, dès qu'on a passé l'Atlantique, le deuxième voyage de Colomb, il y a un plant de canne à sucre. Donc, les épices. Et puis évidemment, c'est ce qui motive les compagnies des Indes ensuite, enfin toute l'aventure portugaise, puis hollandaise, anglaise, française d'ailleurs, vers l'océan Indien pour récupérer les épices.
D'autres produits ont excité l'esprit d'aventure, pour le meilleur et pour le pire, le café, le thé et le chocolat, hein, notre petit déjeuner qui s'est organisé à partir de ces trois boissons fondamentales, thé, café, chocolat. Et que serait notre petit déjeuner sans l'esprit d'aventure qui a présidé à l'exploitation de ces produits?
Là, chacun de ces trois produits a une histoire totalement différente. On ne va pas avoir le temps.
Vous le racontez dans un très bon livre, Le Monde dans une tasse. Le Monde dans une tasse,
oui. Ouais. Mais c'est une histoire qui, effectivement, est totalement liée à celle des épices, sauf qu'il y a des épices qu'on a trouvées, de fait, en Amérique, le cacao. Au bout d'un moment, on s'y intéressait, parce qu'au début, c'était très amer, on trouvait ça infect, les Amérindiens mettaient du piment dedans, et donc, bon, ça le plaisait. Et les Européens ont vu ce breuvage marron auquel ils ont... Pour eux, c'était la coffrophagie, pour eux, c'est poli. Donc, sauf qu'ils ont amené un produit qui, lui, venait de l'Inde, qui était le sucre et cacao plus sucre, ils ont inventé le chocolat. Là, au XVIe siècle, un bienfaiteur de l'humanité, donc peut-être un aventurier, mais c'est peut-être une aventurière, parce qu'on se demande si ce n'est pas un couvent féminin qu'on a inventé cette association. Et donc, les Espagnols ont introduit ce produit en Europe. De même que par le monde arabe, puis turc, on a fait venir le café, qui lui est une invention beaucoup plus récente, mais qui est d'origine africaine, et puis le thé, qui est une histoire chinoise depuis très longtemps, qui a fini par arriver au XVIIe siècle aussi, par les compagnies des Indes. Et les Européens se sont mis premiers à boire ça à la fin du XVIIe. Au début, c'est très rare, très cher, d'autant plus qu'on le boit dans des objets venus d'Extrême-Orient, des porcelaines. Mais petit à petit, les Européens vont se l'approprier, construire leurs plantations, etc. Et après, ça devient le mainstream, ça devient le repas du matin d'absolument tous les Européens qui l'ont à leur tour répandu dans le monde.
Cet esprit d'aventure qui a conduit donc à l'exploitation du thé, du café, du chocolat, qui a également été une histoire tragique.
Ah ben parce que bien sûr, derrière chaque plantation, il y a des travailleurs forcés, et en particulier toutes les traites transatlantiques, les traites négrières transatlantiques, c'est-à-dire 13 à 14 millions de personnes déportées, dont au moins 2 millions morts pendant la traversée, et ensuite une histoire effectivement horrible d'inégalité, et en même temps la fabrique du sous-développement en Afrique.
Allez, dans un instant, c'est la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice. Rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion. C'est une phrase célèbre d'Hegel. On se retrouve juste après avoir écouté Clara Luciani et Yamé qui interprètent Le Mur.
Que c'était que mon frère. Dès que je t'ai vu, j'ai su que ça serait douloureux. La célébrité m'appelle, elle est jalouse. Elle est piquée, c'est mort, et va me rendre fou. Entre le studio et la scène, je suis dans le palace. Loin de toi et de nous, oui, d'une histoire d'amour. Des millions d'écoutes, j'ai même pas une minute pour toi. Dans ma fast life, je peux pas ralentir. Es-tu sûr que tu veux me suivre? Pour le meilleur et pour le pire.
J'aime le sabotage, tu es trop sage. Si tu ne veux rien risquer, tu me perds au passage. Le danger t'aime de meilleurs baisers que l'ennui.
Clara Luciani et Yamé interprétaient Le Mur.
Philosopher,
France Inter,
comme le dit Descartes, c'est d'abord douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Et ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, dans votre punchline philo, vous nous proposez une citation de Hegel, « Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion ».
Mais oui Ali, parce que c'est une phrase qui peut résonner avec la conversation que nous venons d'avoir sur la passion, l'esprit de l'aventure, et qui sonne apparemment comme un encouragement à l'intensité, à une invitation à mettre du cœur à l'ouvrage et à se laisser emporter donc par le tourbillon de ses passions.
Mais attention, parce que venant du philosophe allemand Hegel, donc, cette citation cache un petit tour de magie philosophique. Alors pourquoi ? Parce que, en disant cela, Hegel bouscule des siècles de tradition philosophique. Depuis l'Antiquité, on nous apprend que pour être un grand homme et faire de grandes choses, il faut plutôt être sage, juste, libre, et qu'il faut se méfier de ses passions comme de la peste, parce qu'il faut faire le choix de la raison et non pas celui de la passion. Et donc, depuis lors, il y a toute une tradition philosophique qui considère que la passion est une maladie de l'âme, une force qui nous emporte, qui nous asservit. L'homme passionné ne se maîtrise plus, il se laisse diriger par la passion qui l'entraîne, elle est l'ennemi de notre liberté. Alors, comment Hegel peut-il dire qu'elle a permis de grandes choses ? Comment peut-il réhabiliter ainsi la passion ?
Peut-être parce qu'il pense que sans la force de la passion, l'histoire des hommes resterait immobile.
Mais oui, Alice, c'est ça. Encore une fois, vous tapez juste. C'est exactement l'enjeu de l'histoire qu'il fallait introduire. Quelle merveille. Cette nouvelle valeur de la passion, Hegel la développe, donc comme vous venez de le suggérer brillamment, Ali, dans une nouvelle philosophie de l'histoire. Pour Hegel, l'histoire a un sens. Ce n'est pas une succession d'événements désordonnés, mais une grande progression qui a un seul but. L'histoire des hommes tend vers la réalisation de la liberté et de la raison. Mais la raison et la liberté, eh bien, ce sont des idées abstraites. Elles n'ont pas de mains, pas de bras, pas de jambes pour construire des cathédrales ou renverser des empires, réclamer des droits ou déclarer des indépendances. Elles ont donc besoin des passions des hommes pour se réaliser à travers elles. C'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison. Quand on regarde l'histoire, on comprend vite que les grands hommes n'agissaient pas par altruisme ou par esprit de justice ou de liberté. Ou du moins, pas toujours et pas seulement. Ces grands hommes, qu'ils soient de grands aventuriers ou de grands dirigeants, agissaient de manière intéressés pour satisfaire leur passion, justement. César, Gengis Khan, Christophe Colomb, Napoléon, tous ces grands hommes étaient mus par des passions dévorantes comme l'ambition, la soif de gloire, le désir de puissance. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en suivant toutes ces passions, en poursuivant donc des buts égoïstes, ces individus accomplissent, sans le savoir, quelque chose qui les dépasse, le progrès de la civilisation. Hegel soutient que nos élans les plus personnels sont pourtant les chevilles ouvrières d'un destin commun. La morale ne se niche plus dans l'intention pure, mais dans l'efficacité historique de l'acte. Il y a donc bien ruse de la raison, au sens où la raison utilise les passions humaines pour se réaliser à travers elles. Sur le temps long, on ne peut que constater un progrès moral dans l'histoire des hommes. Il y a aujourd'hui plus de liberté et de rationalité dans le monde qu'il y en avait il y a 100 ans, 1000 ans, 5000 ans. Et pourtant, il y a eu entre-temps des guerres, et il y a encore des guerres, des massacres, des dictatures et des injustices. C'est bien que la raison ou la liberté trouvent pourtant à se réaliser à travers les passions des hommes et malgré elles. Voilà ce qui est la ruse. Hegel nous apprend donc à penser les passions humaines sur le temps long de l'histoire et d'une certaine manière, il nous réconcilie voilà, avec nos passions. Nos passions sont peut-être parfois excessives, bien sûr, mais elles sont notre moteur, notre carburant. Hegel nous rappelle ainsi qu'on ne fait rien de grand à moitié.
Un mot, Christian Grataloup.
La raison dans l'histoire de Hegel, c'est la version temporelle de l'eurocentrisme. On a un développement qui est d'ailleurs largement d'est en ouest et qui aboutit à ce qui est le comble de la civilisation au début du 19e pour Hegel, c'est-à-dire l'Europe. À ce moment-là, l'Europe se démocratisant et l'Europe qui amorçant la révolution industrielle, de ce fait dominant le monde.
Les punchlines philo de Thibaut de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guimette. Merci beaucoup, Christian Grataloup, d'être venu. Je crois que Guimette aurait adoré vous avoir comme prof.
Ah ouais, non, mais comme ami aussi, comme tonton, comme
l'esprit,
tout ce que vous voulez.
L'esprit d'aventure, je vous le recommande vraiment avec une très belle cartographie de Lionel Portier. L'esprit d'aventure, c'est publié chez Armand Collin. Je vous l'offre, Guimette. Et yes, on peut lire également Christian Grataloup, alors là c'est un best-seller absolu, l'Atlas historique mondial, hein, énorme succès, merci beaucoup. Merci à Cyrine Benyounès, Anna Massardier, Joseph Ascal pour la programmation musicale avec la collaboration de Noélia Filleul, notre nouvelle venue dans notre équipe. Merci à Antoine Larcher pour la réalisation ce matin et à Maria Pasquet le reste de la semaine. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale, à la technique ce matin, Guillaume Roux. Et lundi, dans Grand Main Vous Fasse, on se demande s'il est bien utile de prendre des compléments alimentaires. N'hésitez pas à poser vos questions et à témoigner lundi dès 10h au 01 45 24 7000.